Pas un seul des membres de cette terrible expédition ne se laissa jamais aller à la moindre confidence sur ce qui s'était passé cette nuit, et les fragments d'informations que l'on possède proviennent essentiellement de témoignages indirects. Il y a quelque chose d'effrayant dans le soin avec lequel les survivants ont détruit jusqu'au moindre morceau de papier qui faisait allusion au raid. 8 matelots furent tués, et bien que leur corps n'ait pas été rendu, leurs familles se satisfirent de la déclaration officielle parlant d'un affrontement avec les douanes. La même déclaration mentionnait le cas de plusieurs blessés, tous soignés par le docteur Jabez Bowen. Plus difficile à expliquer était cette odeur qui les imprégnait, mystère qui alimenta les conversations pendant des semaines. Parmi les meneurs, le capitaine Whipple et Moses Brown furent grièvement blessés, et leurs épouses témoignèrent de leur étonnement face au refus catégorique de leur mari de montrer leurs blessures. Psychologiquement, tous ces hommes ressortirent de l'aventure ébranlés, marqués à jamais et vieillis. Fort heureusement, c'étaient des hommes d'action, robustes, simples et bons chrétiens, car eussent-ils été plus subtils, plus intellectuels que la démence les aurait sans doute emportés. Le révérend Manning fut le plus perturbé de tous, mais il réussit à surmonter ses angoisses et à effacer ses souvenirs dans la prière. Par chance pour eux, tous ces chefs avaient des métiers et des rôles importants à jouer. Ainsi, un an plus tard, le capitaine Whipple conduisit la foule qui incendia le HMS Gaspé, ce qui lui permit sans doute d'effacer un peu le souvenir de cette épouvantable nuit. On remit à la veuve de Kerven un cercueil de plomb, scellé, et de forme assez curieuse, qui avait dû être apportée sur place prêt à l'emploi. Son mari avait été tué, lui dit-on, lors d'un affrontement avec les douaniers dont, pour des raisons politiques, on ne pouvait révéler les détails. Et personne ne dit un mot de plus sur la mort de Joseph Kerven. Charles Ward avait cependant un maigre indice qui lui permit d'échafauder une théorie, un passage souligné de la lettre de Jedediah Horn qu'Ezra Whedon avait eu le temps de recopier. Cette copie fut retrouvée chez un des descendants de Smith. Whedon l'avait-il remise à son complice afin de laisser après tout un témoignage de l'horreur qu'il avait vécue? Ou, ce qui est plus probable, Smith l'avait-il toujours eu et souligné lui-même après avoir questionné son ami? On ne le saura jamais. Le passage souligné était le suivant. « Je vous le dis encore. » N'invoquez personne que vous ne puissiez renvoyer, ce par quoi je veux dire personne qui pourrait à son tour appeler quelque chose contre laquelle vous seriez impuissant. Appelez les mineurs de peur que les majeurs ne refusent de répondre et finissent même par vous commander. À la lumière de ce passage, imaginant quel allié improbable un homme aux abois serait capable d'invoquer en dernière extrémité, Charles Ward se demanda si, au bout du compte, Kerven avait bien été abattu par ses concitoyens. La disparition de toute trace du sorcier de Potuxet, des mémoires et des annales de Providence, fut évidemment facilitée par les positions qu'occupaient les meneurs de l'expédition punitive. Au début, ils n'avaient pas souhaité une suppression aussi radicale, ils avaient seulement fait en sorte que la veuve, son père et sa fille restent dans l'ignorance de ce qui était arrivé. Mais le capitaine Tillinghast, ayant entendu des rumeurs qui ne pouvaient qu'exciter les curiosités, exigea que sa fille et sa petite-fille changent de nom, détruisit tous les papiers et fit radier au ciseau les inscriptions de la pierre tombale de Joseph Kerven. À partir de ce moment-là, la censure devint de plus en plus implacable, s'étendant même, d'un commun accord des habitants, aux documents officiels de la ville et aux archives de la Gazette. Cet acharnement fait songer à la conspiration du silence qui s'abattit sur Oscar Wilde après sa disgrâce, ou encore au sort réservé par les dieux au roi de Runazar, qui devait non seulement mourir, mais n'avoir jamais existé. Mrs. Tillinghast, la veuve de Kerven, qui avait repris son nom de jeune fille en 1772, vendit la maison d'Olney Court, et alla habiter chez son père à Powers Lane jusqu'à sa mort en 1817. La ferme de Potuxet fut laissée à l'abandon et se dégrada avec une incroyable rapidité. En 1780, il ne subsistait que la maçonnerie, qui ne fut bientôt qu'un tas de pierres informes passé 1800. Personne ne s'aventura jamais dans l'épaisse végétation qui masquait la porte de la falaise le long de la rivière. Seul le capitaine Whipple marmonnait de temps en temps des phrases du genre « La peste soit de ce pfff » ou encore « Ce damné sorcier nous préparait un dernier tour. Un mou, je brûle sa putain de ferme !»